Merci pour l'invitation. Donc moi, dans cette intervention, je vais vous présenter des résultats d'une étude qui nous a porté à retrouver des ordres spécifiques de l'écosystème scientifique qui sont déjà en acte en ce moment, mais qui risquent d'être beaucoup, beaucoup amplifiés par l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi je travaille sur ce sujet? Pour commencer, je fais des sciences sociales computationnelles et en particulier mon domaine de recherche sont les sciences des sciences, c'est-à-dire les études de l'écosystème scientifique à travers des métriques, à travers les études des bases de données scientométriques. En particulier, en ce moment, je suis porteuse de deux projets de recherche, l'une financée par l'ANR, le projet Scientia, et l'autre financée par l'AMITI, à travers une bourse doctorale qui est EPI. Donc, ces deux projets de recherche sont adressés à étudier l'impact de l'introduction de la technologie de l'intelligence artificielle dans la production des sciences, EPI avec un focus spécifique sur les neurosciences. Donc, ces deux projets de recherche sont menés par un consortium très interdisciplinaire qui comprend plusieurs laboratoires et plusieurs expertises différentes. Il y a donc notre laboratoire, le GEMAS, il y a le Centre Internet Société, il y a l'Ellipsis avec aussi Jean-Gabriel Ganachat, et il y a le CREST, et on a aussi des partenaires privés chez Sony Lab. Donc, ce projet interdisciplinaire a différents onglets. Pour le moment, on s'est plutôt concentré sur des études, disons, quantitatives des transformations des schémas de diffusion de l'IA dans les disciplines. Mais bientôt, on commencera à faire aussi des démarches plus qualitatives vis-à-vis des éditeurs et de tous les acteurs de la production scientifique pour voir effectivement quelle typologie d'impact a l'IA dans la production. Donc, dans le cadre de ces projets, les résultats que je présente vite aujourd'hui sont très simples, on peut les déjà imaginer. Pour commencer, l'IA se diffuse dans toutes les disciplines. Avec un taux plus ou moins constant à partir des années 80, même si avec des pauses pendant les hivers de l'IA qu'on a pu décrire avant Jean-Gabriel. Mais à partir de 2010, avec l'introduction des IA génératives, l'augmentation de la production basée sur l'IA, ça augmente dans une manière très, très drastique. Les schémas de diffusion de l'IA ne sont pas pareils dans toutes les disciplines. En général, il y a des disciplines où l'IA rentre à travers l'étude des réseaux neurones, comme par exemple dans les neurosciences. En sociologie, ça rentre plus à travers des techniques de machine learning classiquement liées aux méthodes statistiques déjà utilisées en sociologie. Mais avec le deep learning, on voit vraiment même en uniformisation de l'utilisation de l'IA dans les disciplines. Celle qu'on observe aussi, c'est que la production scientifique basée sur l'IA, donc les papiers qui contiennent des mots-clés de l'IA, qui utilisent l'IA comme méthodologie, sont produits avec des temps beaucoup, beaucoup réduits par rapport à celles qui sont les papiers produits sans l'IA. Donc, en même hauteur, utilisent la moitié du temps pour produire un papier en IA par rapport à celle qu'ils utilisent pour produire un papier qui n'utilise pas l'IA. Donc, à partir de ça, je repars sur une question plus générale, qui est celle de la de surcharge dans l'information scientifique. C'est un thème qui a déjà touché Jean-Gabriel avant. Donc, déjà dans les années 60, le père de la scientométrie de Solla Price, il avait remarqué cette augmentation exponentielle de la littérature scientifique. Mais si on regarde d'aujourd'hui avec les instruments qu'on a, donc les bases de données comme OpenAlex, on peut apprécier l'amplitude de cette croissance. Et pour qui n'a pas l'habitude de traiter les concepts de l'expansion exponentielle, ça veut dire que toute la production scientifique mondiale depuis le Moyen-Âge, les 60% de cette littérature scientifique a été produite à partir de l'année 2000. Donc, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Et On sait que le problème de la surcharge d'informations, c'est quelque chose de très important dans les médias sociaux, par exemple. C'était une question très, très, très étudiée. Et ça a été remarqué que la surcharge d'informations dans les médias sociaux, c'est responsable de beaucoup de désordres dans la diffusion de l'information, comme notamment les fake news, les chambres d'écho, la formation, les algorithmes de recommandation de plus en plus précises, mais aussi c'est responsable de la formation d'une typologie d'attention vers les concepts qui est différent. Avec les surcharges d'informations, on a un régime d'attention qui change. On a des concepts, des contenus qui sont capables de monopoliser l'attention donc d'avoir beaucoup, beaucoup de views si on parle de vidéos, mais concentrés sur un temps très court. Donc, on a que les régimes qui sont produits dans les médias par les surcharges d'informations sont des régimes éphémères d'informations. Donc, on a des contenus qui changent très, très vite. Donc, là, on s'est posé la question, est-ce que dans les sciences où on a les mêmes problèmes de surcharge d'informations, on observe les mêmes phénomènes? Est-ce qu'on a cette éphéméralité dans les sciences? Donc, on a pris des corpus de différentes disciplines, donc on a des disciplines scientifiques, des disciplines humanistiques, et on a étudié si on observe ce phénomène. Donc, sans rentrer bien sûr dans les détails de ce qu'on a observé, c'est que, encore comme dans les médias sociaux, aussi dans les sciences, on a de plus en plus un nombre plus réduit de papiers qui est capable d'attirer l'attention. En termes de citations, bien sûr. L'attention en science, on la mesure à travers les citations. Donc, on a de moins en moins de papiers qui sont les superstars de l'espace des citations. Et donc, on a un peu cette idée du monopole de l'attention par un nombre faible de papiers. Mais, différemment de ce qu'on observe dans les médias sociaux, les papiers qui deviennent importants, donc qui gagnent l'attention, ils restent pour très très longtemps dans l'écosystème scientifique. Donc, ces articles qui sont les plus cités, ils ont des cycles de vie beaucoup plus longs. Donc, ici, on a l'effet inverse par rapport aux médias sociaux. Qui gagne l'attention, qui est gagnant, il reste gagnant. Et si on analyse mieux la composition de ces papiers qui sont les plus importants, on voit que de plus en plus, on continue à citer, donc le classement de ces papiers les plus cités dans toutes les disciplines, c'est beaucoup plus stable. Donc, on observe en fait une standardisation des canons scientifiques. Notre référence principale sont de plus en plus les mêmes. Si on étudie ça sur le point de vue de l'élite des papiers, donc on appelle l'élite les papiers qui prend les top papiers qui prend les 80% des citations. Déjà, ce nombre, pour moi, c'était quand j'ai vu c'est très bas. Donc, on a autour de 5% de tous les papiers prend les 80% des citations. Mais aussi, on part de 5% en moyenne, mais si on part de 8% dans les années 80, on arrive aujourd'hui que les 4% des papiers prend les 80% des citations. Donc l'élite scientifique devient de plus en plus petite par rapport à notre corpus, et l'âge moyen de cette élite, donc l'âge à partir de la publication, devient plus élevé. Donc, nos élites sont plus petites et beaucoup plus vieux. Donc, on appelait ça un phénomène de gérontocratisation des sciences, en transition vers une science qui est de plus en plus qui va vieillir, donc qui est plus âgée, et où il n'existe pas une possibilité vraie pour les nouveaux papiers de devenir les stars, donc de devenir gagnants. Donc, ça c'est une partie des désordres qu'on a observés dans ces papiers. Il y a d'autres désordres qui ont été observés récemment, comme par exemple la perte de disruptiveness. Donc, les papiers qui sortent ont moins de capacité de de créer une fracture avec celles qui étaient observées dans le passé. Donc, c'est un peu le même résultat qu'on a obtenu à travers l'idée de, avec cette idée de similarité entre les rankings. Donc, c'est notre papier qui confirme encore cette hypothèse. Et aussi, on observe une sorte de balkanisation de la communauté scientifique, où il y a de plus en plus de communautés séparées qui ne se parlent pas et qui partagent seulement une partie des références, qui sont cette élite des références. Et pour le reste, les papiers moins dans un niveau intermédiaire de l'échelle des popularités sont partagés entre des communautés qui ne se parlent pas. Donc, c'est quelle l'origine de cette désordre? Pour commencer, sûrement, il y a un rôle central donné par les surcharges d'informations. Et ça, on l'a montré. On peut vraiment vérifier qu'il existe une corrélation causale entre les surcharges d'informations et toute cette série de troubles. Mais, bien sûr, le surcharge d'information n'est pas seul. Il y a aussi l'effet qu'on a introduit à partir des années 2000, un système de recommandation qui a changé la manière de repérer les informations dans les sciences, qui est Google Scholar. Donc, comme chercheur, on a de plus en plus une tendance à chercher les informations à travers déjà des formes d'IA. C'est pas l'IA dégénératif, mais qui déjà nous recommande les papiers dans un certain ordre, qui est un ordre qui va dans la direction de booster les phénomènes du avantage cumulatif. Donc, c'est sûrement aussi ça un autre ingrédient qui génère ce type de problématiques. Après, il y a bien sûr des problématiques liées au fait qu'on est obligé de produire plus, et qu'on a aussi des carrières qui sont de moins en moins longèves. Donc, on a des acteurs qui rentrent dans l'académie et qui sortent après 2 ans, et donc qui n'ont même pas le temps d'explorer les contenus possibles. Ce sont des doctorants qui rentrent, ils font le doctorat, ils partent, ou des gens qui font des périodes très courtes dans l'académie. Et donc, il n'y a pas la possibilité de mettre en place une connaissance extendue de la littérature existante. Et bien sûr, il y a le phénomène des pratiques de diffusion hétérogènes qui, donc l'existence des revues prédatrices qui, par Google Scholar, sont mises sur le même plan des revues qui ne sont pas prédatrices. Donc, on a différentes possibles origines de tous ces troubles. Qu'est-ce qui se passe avec l'IA? Avec l'IA, bien sûr, la production, ça devient encore plus vite. Donc, cette surcharge d'informations va redoubler. Et là, donc, toutes ces typologies de problématiques, ils vont exploser. De plus, on a observé dans plusieurs cas d'études le fait que l'IA, quand ça rentre dans une discipline, a une capacité, pas de s'intégrer, mais de fracturer la discipline. Par exemple, dans les neurosciences, on voit que dès que l'IA est devenue populaire dans les neurosciences, on a la création d'une IA basée sur les neurosciences, d'une neuroscience basée sur l'IA et une neuroscience qui n'est pas basée sur l'IA, où il y a des acteurs, des chercheurs différents qui travaillent et qui publient dans des revues différentes. Donc il y a vraiment une fracture qui est due à l'IA dans les communautés scientifiques. Donc ça, c'est un autre phénomène qu'il faut considérer parce que, effectivement, l'IA, pour le moment, n'est pas quelque chose d'unificateur dans les disciplines, mais plutôt quelque chose qui crée des fractures. Donc, pour retourner sur la question des algorithmes de recommandation, j'ai déjà parlé de Google Scholar, donc de ce phénomène de boosting de processus d'avantage cumulatif. Mais au-delà de Google Scholar, ça vient de sortir un nouveau moteur de recherche illicite, qui cite dans sa page Analyze research papers as superhuman, at superhuman speed. Donc, Elicit permet de taper en question de recherche et d'avoir la bibliographie complète liée à cette papier, à cette question de recherche, avec les résumés de tous les papiers. Donc, ça permet aux chercheurs de faire le travail qu'on fait pendant un mois, qu'on se prend connaissance de l'état de l'art sur un sujet, de le faire dans 2 heures. Donc, tout ça, bien sûr, ça va augmenter la productivité. Mais aussi, on ne sait pas dans quelle direction ça va augmenter, parce qu'on ne sait pas si cette typologie de moteur de recherche va encore, comme Google Scholar, dans le sens d'avantage cumulatif, si ça suggère quelque chose, s'il y a des chambres d'écho, donc s'il nous identifie et donc il est capable de nous présenter des papiers qui sont dans notre... sont proches de nous, s'il a des efforts. Donc c'est une boîte noire qu'il faut vraiment étudier, qu'il faut surveiller, parce que ça peut changer encore une fois les chemins de citation qui sont présents. Donc, pour arriver vers la conclusion et ouvrir, en fait, mon idée, c'est j'ai lancé une alerte, je veux provoquer une discussion pour voir ensemble des possibles solutions. Comme acteur académique, bien sûr, il y a la question, qu'est-ce qu'on doit faire comme chercheur et comme les autorités académiques, je pense qu'il doit de plus en plus se poser la question de la vitesse, donc de ce système qui nous pousse à produire en vitesse, et donc le système de publish or perish, qui est cette méthode d'évaluation quantitative qui porte vers une surproduction de sciences, une surcharge d'informations qui n'est pas tout à fait nécessaire et n'est pas accessible à la communauté. On doit réfléchir sur les carrières scientifiques, donc sur la durée des carrières, et chercher probablement d'aller vers un retour vers des carrières scientifiques plus persistantes pour créer des chercheurs capables d'explorer cet énorme espace, l'énormité de l'écosystème scientifique. Et surtout, comme chercheur, on doit vraiment faire l'effort d'étudier en continu cette transformation pour pouvoir alerter vers cette typologie de désordres qui sont déjà présents et qui sont susceptibles d'être amplifiés énormément par l'IA. Côté éditorie scientifique, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je ne sais pas trop, mais je pense que pour commencer, l'existence d'un réseau comme ça, c'est quelque chose qui est important, parce que réfléchir ensemble à cette transformation, c'est la première manière pour pouvoir identifier des solutions. Par exemple, ça serait intéressant, sur la base de cette considération, de pouvoir penser des moteurs de recherche différents. Donc des bases de données accessibles pour les chercheurs qui permet pas seulement de faire des choix basés sur l'innovation plutôt que sur la recommandation, donc réfléchir sur un investissement en termes de comment faire circuler l'information scientifique et d'éviter ces biais de ciblage de l'hypervantage cumulatif. Peut-être aussi penser à des techniques pour diffuser, pour régler les bibliographies des papiers. Donc, un facteur qu'on a observé, c'est qu'à partir des années 2000, la taille des bibliographies a plus ou moins redoublé. Donc, on a une tendance à continuer probablement à citer des papiers plus vieux, simplement parce qu'il y a l'espace. Donc, ça, c'est un changement qui a été fait, je pense, en manière graduelle, je ne connais pas, mais notre donnée montre vraiment ce phénomène de redoublage de la longueur des bibliographies. Est-ce que ça a eu des effets positifs ou négatifs? Est-ce qu'il faut faire probablement quelques passages pour régler aussi ça? Ça, c'est à réfléchir et étudier en collaboration aussi avec les chercheurs qui font ce type d'études. Et finalement, pour éviter la fragmentation, une chose qui serait très importante, c'est d'avoir des espaces dans les revues disciplinaires qui sont ouverts vers des études basées sur l'IA. Par exemple, dans une revue typiquement sociologie, on n'arrivera jamais à publier des papiers qui utilisent l'IA. Donc, ça porte à l'émergence des revues spécialisées en sociologie qui utilisent l'IA. Et donc à la fragmentation de l'espace scientifique, de l'espace éditorial. Donc c'est peut-être un point intéressant à aborder, c'est le fait d'aller vers des dimensions interdisciplinaires à l'intérieur des revues spécialisées. Donc, je laisse cette proposition, mais je serais vraiment intéressée à voir votre impression, votre commentaire sur tout ça. Merci beaucoup.